budget, Girard, qui a été présenté hier, le budget provincial donc de la coalition Avenir Québec, qui fait réagir, qui a fait réagir hier, qui continue à faire réagir aujourd'hui. Pour le meilleur, pour le pire, hein, ça dépend toujours à qui on demande, mais on revient souvent avec ce déficit record d'11 milliards de dollars qui est loin des 7 milliards en surplus qu'avaient laissé les libéraux. On relancera pas ça parce que ces milliards en surplus avaient été faits, entre autres, sur le dos d'organismes communautaires qui avaient manifesté longuement. On a renversé la vapeur. Bref, tu sais, on fera pas tout le monde, là, mais ce déficit fait grand bruit. On a au bout du fil pour nous en jaser de ce budget Jean-Philippe Brosseau, il est vice-président de pratique conseil en performance financière chez Raymond Chabot Grant Thornton. Monsieur Brosseau, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, d'entrée de jeu, comment vous analysez ce budget? Quelles sont vos réactions?
La première réaction, comme vous venez de le dire, l'ampleur du déficit. Donc, c'est un montant record de déficit pour dans l'histoire du Québec. Donc, c'est sûr que c'est un important déficit qui est principalement dû aux dépenses en santé, en éducation et puis à la signature des ententes syndicales qui ont eu lieu dans les dernières semaines au Québec. Là.
Les gens, je sens qu'il y avait les manifestants, les membres des syndicats avaient, dans la grande mesure, je dirais, la sympathie du public. Quand on voit le déficit ou l'effet de ces ententes-là aujourd'hui, peut-être les gens font le saut. Tu sais, des fois, quand les gens donnent leur sympathie ou non à un enjeu, ils n'ont pas tout le portrait. Je ne sais pas si les gens s'attendaient à ce que la facture augmente autant.
Non, exactement ça. Il y a quand même un gros... Il n'y a pas juste ça non plus, en fait. Il y a des écarts aussi avec les revenus d'Hydro-Québec. Il y a aussi d'autres dépenses qui ont été annoncées par le gouvernement. Donc là, on a quand même, à la mise à jour économique de l'automne, on parlait d'un déficit de 3 milliards là, pour l'année qui vient, puis on est rendu à 11 milliards. C'est sûr qu'il n'y a pas juste les ententes syndicales. Là. Donc, il y a toutes sortes d'autres dépenses aussi que le gouvernement a mis de l'avant dans le secteur de la santé et l'éducation. C'est principalement ça qu'on regarde. Quand on regarde les nouvelles dépenses que le gouvernement a fait, il n'y a pas beaucoup de mesures ailleurs que dans la santé et l'éducation. Là, sur les 8 milliards de nouvelles dépenses que le gouvernement annonce les 5 prochaines années, il y en a 5 sur 8 qui sont dédiés à la santé et l'éducation. Donc, on a vraiment un budget qui est centré là-dessus, qui laisse... Qui dans le fond, on va attendre l'année prochaine pour voir quel sera le plan de match du gouvernement pour faire en sorte qu'on atteigne l'équilibre budgétaire dans les 5 prochaines. Ça ne sera pas une tâche facile.
Donc, on peut facilement en déduire que les gagnants de ce budget-là, c'est la santé et l'éducation, si on peut le dire ainsi. Les perdants, d'après vous, c'est qui?
Ben, les perdants, il y a quelques modifications là, des baisses là, de crédit d'impôt dans certains secteurs, là, notamment les entreprises qui bénéficient actuellement du crédit d'impôt pour affaires électroniques, petites multimédia. Il y a certains petits éléments comme ça, plus nichés, là, peut-être que les gens vont réagir négativement, mais en général, c'est plus qu'il n'y a pas nécessairement d'appui à nos PME. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de mesures non plus. Là, on a entendu beaucoup parler les derniers mois de la pénurie de logements au Québec, dans toutes les régions du Québec. Puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent qui est mis pour contrer cette problématique-là. Puis même les prévisions mises en chantier qui sont dans le budget sont loin de permettre là, de combler les manques qui sont identifiés par vraiment tout le monde au Québec dans les prochaines années. Là.
On va revenir sur ce déficit de 11 milliards de dollars parce que c'est des chiffres, pour monsieur, madame, tout le monde, 11 milliards, ça veut pas dire grand chose, hein. 9 milliards, 10 milliards rendus là, c'est pas grand chose, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui sépare les deux. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait inquiéter la population d'avoir un déficit comme celui-là ou dans le contexte où on avait des ententes à renouveler dans plusieurs secteurs puis c'est pas terminé dans le domaine de l'État? La pandémie, on est au sortir de tout ça. Est-ce que c'était à prévoir? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est épeurant?
Ben, je dirais que pour cette année, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choix parce que les données économiques pour 2023 démontrent que l'économie du Québec a, somme toute, cette année, une très, très légère croissance. 2024, la croissance va être très, très faible, ce qui fait que les revenus du gouvernement dans ce temps-là augmentent pas beaucoup, alors que les dépenses, comme on vient d'en parler, ont augmenté beaucoup. Ce qui fait que je dirais que pour cette année, c'est le portrait de chance actuelle qui est teinté par le contexte économique. Par contre, pour les prochaines années, si le gouvernement veut réussir à résorber ce déficit-là, il va avoir des efforts très importants à mettre pour s'assurer que les dépenses n'augmentent pas plus vite que les revenus. Là, parce que si l'inflation continue de se maintenir à des niveaux plus élevés qu'historiques, ça va être aussi compliqué là, de contrôler les dépenses dans tous les secteurs du gouvernement. Là.
Je voyais dans les mesures qui sont à prévoir pour diminuer justement, revenir à un équilibre budgétaire. On avait diminué la taille de l'État. Ça, c'est la fameuse formule qu'on nous ramène tout le temps et ça n'a jamais fonctionné. Diminuer la taille de l'État, j'ai l'impression que c'est un rêve pieux, là, c'est un vœu pieux. Ça ne fonctionne pas, ça. On a besoin de... je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est...
Oui.
Tu sais?
Ben, en fait, c'est ça. Dans le budget, en ce moment, on est identifié. Là, il y a différentes lignes. Il y a une ligne qu'on appelle optimiser l'action de l'État là, qui dit qu'on va aller chercher un 3 milliards d'ici les 5 prochaines années, justement, là, pour essayer d'optimiser l'action de l'État. Là, on se rappelle quand les libéraux étaient rentrés au pouvoir là, dans les années 2000, on avait parlé là, de révision des programmes. Chaque gouvernement, là, des fois, des formules différentes, mais ultimement, ça revient tout à la même chose, de dire qu'il faut aller chercher, couper du gras où on va en trouver. Mais c'est toujours, comme vous venez de dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, d'aller chercher, diminuer le nombre. Souvent, quand on va réduire les dépenses, ça va réduire les services à population. Puis là, c'est ce qu'on a vu aussi quand il y avait des compressions importantes, là, dans le gouvernement précédent, là, il y avait toutes sortes d'organisations qui avaient été touchées par les coupes importantes.
Je pense que dans une certaine mesure, les gens sont prêts à accepter. Puis vous le disiez, c'était peut-être à prévoir cette année les choses. Il y a une conjoncture et tout ça. Je pense que là, maintenant, si on est prêt à dans une certaine mesure, comme je disais, à faire confiance au ministre des Finances par rapport aux actions que le gouvernement va poser, ben je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir l'œil justement sur le plan qu'il devrait présenter d'ici un an pour ramener les choses dans une fourchette qui est plus intéressante au niveau des dépenses. Ça, il va avoir de la pression au niveau sur le ministre là, pour répondre aux attentes.
Oui, tout à fait. Ça va être de la grosse pression, d'autant plus qu'on n'a pas des prévisions de croissance là, qui sont, comme je disais, là, très très importantes en 2024. Là, dans le budget prévoit une croissance du PIB au Québec de 0,6% en 2024. Ça va se redresser un peu 2025-2026, mais on n'est pas dans des croissances astronomiques non plus. Donc, on va avoir jumelé une croissance économique qui est pas nécessairement très très forte avec des enjeux de main d'œuvre qui vont continuer d'être vécu au Québec avec le vieillissement de la population qui continue. Tu sais, puis on parlait là, je voyais là, qu'environ là, le ministre parlait hier d'environ 4 milliards là, sur le déficit qui est un déficit structurel plutôt que conjoncturel. Là. Donc c'est ce 4 milliards là va être plus compliqué à aller chercher là, considérant qu'il faut probablement comme le nom le dit aller couper à quelque part dans la structure. Plutôt que des dépenses plus plus faciles à couper.
Je sais pas dans une grande, c'est pas un gros montant, mais on parlait de quelques millions, je pense que c'est 25 millions de dollars pour le réseau cellulaire à travers la province. Ça peut être bénéfique dans des régions rurales comme chez nous où on manque de réseau cellulaire dans des grandes artères. Je sais pas si ça va faire, je sais pas si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça.
Ça fait plusieurs années qu'on voit cette annonce.
Ouais.
Bon, souhaitons que cette fois-ci soit la bonne.
Ouais.
Que les investissements soient faits et que la couverture soit partout au Québec. Là.
Sinon, comment on juge justement le travail de M. Girard? Est-ce qu'il il aurait pu faire moindre qu'un 11 milliards de dollars? Est-ce qu'il y a des choix qui auraient pu être faits différents sans que tout le monde se ramasse dans la rue pour scander des slogans puis demander la démission de tout le monde? Là, parce qu'on le voit des fois quand, entre autres, je le disais d'entrée de jeu avec les libéraux, on a fait des coupures, mais il y a plein de secteurs, que ce soit le communautaire, plein de syndicats qui étaient dans les rues pour réclamer des rehaussements du financement. Puis c'est toujours la dynamique. Hein? On demande un rehaussement du financement quand le budget sort trop élevé. On se dit, bon, ça n'a pas de bon sens. On demande des meilleurs salaires. Mais quand il faut payer la facture au bout du compte, on se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens des salaires comme ceux-là. C'est pas de mince tâche, hein, être ministre des Finances?
Non, c'est pas de mince tâche. Tu sais, puis le budget présente justement le coût des différentes mesures de l'argent qu'ultimement que le gouvernement a mis dans les poches des Québécois depuis 2022. Et quand les mesures, là, notamment les baisses d'impôts, c'est 11 milliards dans les prochaines années auxquelles le gouvernement renonce là, les baisses d'impôts qui ont lieu dans les dernières années. Là. Donc c'est juste ça, c'est des montants importants que le gouvernement a décidé lui-même de laisser aller. Aussi les montants que le gouvernement a donné là, durant la pandémie.
Les 500 $ là.
Exactement, c'est ça. Juste ça, ça a eu un coût d'environ 3,5 milliards. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'éléments. Tu sais, là aussi, la mesure que le gouvernement a en place de limiter l'indexation de tous les tarifs à 3% dans le contexte inflationniste. Donc c'était toutes des mesures comme ça que... Ultimement, le gouvernement se prive de revenus. Donc, quand tu te prives de revenus, à un moment donné, là, pour si les dépenses continuent d'augmenter, ça crée un chiffre négatif en bas, là.
Vous êtes meilleur pour moi que moi pour analyser tout ça. Le 500 $ ça valait-tu le coup? Est-ce que ça a eu les retombées économiques espérées? Est-ce que ça a eu le soutien? Ça a donné le soutien à la population qui était attendue? Ou c'est un coup d'épée dans l'eau puis c'est 3,5 milliards de dollars à peu près jetés par la fenêtre?
Bien, je dirais que c'est deux choses. En tant qu'économiste, c'est sûr que quand tu as de l'inflation puis de donner de l'argent à des gens qui vont la dépenser dans l'économie, ça peut créer plus d'inflation. Donc, c'est peut-être pas la meilleure manière là, d'essayer de juguler l'inflation qui était très, très haute à ce moment-là. Là, ça l'a diminué un peu. L'autre élément, c'est par rapport à la façon que ça a été ciblé. Là, le gouvernement avait choisi de donner de façon assez élargie les montants, alors qu'on aurait pu y aller davantage sur des clientèles ciblées. Donc, on avait donné des 500 $ à des personnes qui gagnaient jusqu'à
100 000 $. Ouais.
C'était peut-être pas nécessairement réussi pour l'ensemble de ces personnes-là. Là.
Non, mais c'est bon pour avoir des votes. Ça fait plaisir aux copains.
Exactement, c'est ça. C'est ça qui va être intéressant, sûr, parce que là, on s'approche aussi de l'échéance électorale.
Ouais.
Le plan de retour à l'équilibre budgétaire va être intéressant à voir. D'autant plus qu'il y a quand même certaines. Le ministre a prévu certaines réserves là dans ses prévisions budgétaires, donc des provisions pour éventualité aussi de quelques milliards de dollars qui font en sorte qu'on a un déficit plus élevé aussi. Donc s'il n'y a pas ces fameuses éventualités-là, peut-être qu'on n'aura pas des déficits aussi élevés. Là. Mais il reste que le déficit va être élevé en 2024-2025. 2025-2026, on parle d'un déficit là, de 8,5 milliards encore. Donc, on n'est pas sorti du bois, là.
Non, et il est plus important, celui qu'on nous a annoncé hier, que prévu. Donc, ce qui nous prévoit pour les prochaines années, on va voir. C'est peut-être comme la météo, hein? On a des bons outils pour essayer de nous prévoir le meilleur, mais c'est pas nous qui a le gros bout du bâton. Hein? Fait que il y a des choses qui se passent qu'on peut pas les voir, on peut pas les prévoir. Il faut réagir en fonction de tout ça. Jean-Philippe Brosseau, vous êtes vice-président de pratique, conseil en performance financière chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci d'avoir apporté votre éclairage sur ce budget. Des fois, ça peut être un peu difficile de se retrouver là-dedans, de démêler tout ça. Merci, ça a été fort utile aujourd'hui.
C'est plaisir. Bonne fin de journée.
Merci pareillement. Écoutez, hein, donc on voit que c'est des grandes questions, c'est préparation de budget, l'effet de tout ça, puis comme je le disais, on a vu à de nombreuses reprises des gens dans la rue dire, écoutez, pendant les manifestations, on veut rehausser les conditions de travail dans les hôpitaux, on veut améliorer la rétention, on veut vraiment améliorer les choses en santé, même chose en éducation, améliorer la réussite de nos jeunes, et ça, c'est payant pour le futur. Mais pour l'instant, il faut payer la note, et la note est assez salée. Est-ce que ça aura les effets escomptés? Si oui, tant mieux. Sinon, ça fait cher payer pour revenir au pareil au même. Restez avec nous. Dans un instant, dernière portion de l'émission, l'heure juste, Mélanie Morin, agente de prévention et aux communications à la SOPFEU, et notre invité, on discute du début hâtif là, de cette saison de protection des forêts contre le feu avec le retour plus tôt que prévu des équipes au travail et des conditions qui sont propices là à des feux de forêt. Il y en a déjà eu un d'ailleurs il n'y a pas si longtemps du côté de la pêche, 2 hectares qui ont brûlé, donc on s'est lancé la saison chez nous, on en reparle dans un instant.